Donc, la première exposition que l'on a choisie comme objet d'un exercice d'analyse ou d'anatomie, il se trouve que j'y ai participé d'un autre point de vue, qui était plutôt celui de l'exposition que l'on fait, plutôt que de celle que l'on regarde. Donc c'était l'exposition 1917, l'été dernier, au Centre Pompidou, Metz, avec en permanence Laurent Lebon, directeur du Centre Pompidou, Metz, et évidemment Claire Garnier, qui a été tout au long de ces années de préparation et de ces mois, ces deux semaines d'accrochage, la commissaire de l'exposition 1917. Alors, j'ai découvert que je devais parler de l'historiographie. Ce sera assez bref, d'abord, parce que je pense que il appartient à Claire Garnier d'expliquer plus avant comment les choses se sont faites, comment on a travaillé. Mais parlant de l'historiographie, je veux juste dire deux choses, faire deux remarques qui sont assez directement liées à ce que je viens de dire à l'instant. Ce sont deux exemples. D'abord, pourquoi, comment ça s'est passé? Laurent, vous permettez que je dise Laurent, tout le monde, de toute façon, on s'imagine qu'on ne s'appelle pas monsieur dans la totalité de nos relations. Surtout pas président, non. Mais ça reviendra. Laurent téléphonait, dire, on a envie de faire une exposition qui tourne autour de la Première Guerre mondiale. On a lu votre livre, Silence des peintres, et on aimerait en parler avec vous. Ça, c'était en 2010. Ce livre, je ne vais pas non plus abuser de l'égo-histoire, quand il a paru, donc c'était au milieu des années 90, 96, il n'a eu aucun succès. Il n'a absolument pas rencontré d'intérêt. Bon, ça arrive. Parler de la question des rapports de la création artistique pendant la Première Guerre mondiale dans les pays belligérants, et même un petit peu en Suisse tout de même, c'est un sujet qui n'avait de toute évidence pas rencontré de curiosité particulière, éventuellement de quelques historiens qui auraient plutôt eu tendance à me reprocher d'être intervenu sur ce terrain un historien de l'art, donc de choses réputées annexes du point de vue des historiens, et c'est tout. Bon, 10 ans, non pas tout à fait quand même, j'exagère, 4 ans après, de toute évidence, la situation n'était plus la même. Alors, je dis cela pourquoi ? Parce que j'ai parlé à l'instant de l'opportunité des expositions par rapport à la création contemporaine et par rapport au contexte politique et social qui, en un sens, interfère avec les expositions et sur lequel les expositions interfèrent. Qu'est-ce qui s'était passé entre 1996 et 2010, pendant 14 ans? Je pense que c'est assez simple. Il s'était passé tout simplement que la guerre en Europe, la guerre sur des terrains européens, était redevenue, évidemment, un sujet tout à fait quotidien. Que un certain nombre de questions que j'avais rencontrées dans le livre, rapport à la photographie, la communication des images de guerre dans une société qui, déjà à partir de 1914, n'était pas beaucoup moins saturée d'images photographiques que ne l'est la civilisation actuelle, c'était des questions qui venaient, pourrait-on presque dire malheureusement, de trouver un écho qu'elles n'avaient pas trouvé quelques années auparavant, non qu'il n'y ait pas eu de conflit En 1996, Dieu sait, puisqu'on était déjà en plein dans les conflits balkaniques, mais un certain nombre d'événements n'avaient pas encore eu lieu et n'avaient pas, si j'ose dire, remis le tragique de l'histoire sous les yeux de tout un chacun. Et donc, je pense que à cet égard, même si ensuite on parlera de 1917 sous des points de vue complètement différents, 1917 venait en son temps, pas vraiment parce qu'il y avait des commémorations qui se préparaient, et d'ailleurs le calendrier des expositions, des commémorations, nous en sommes délivrés tout de suite, puisqu'on a fait une exposition en 1917 en 2012, on n'a pas attendu 2014, ni à plus forte raison 2017, mais on était en prise sur l'état de la société, l'état de l'histoire contemporaine, par rapport au cinéma, à la photographie et à ce que les artistes peuvent faire. Je crois qu'on était assez juste par rapport à cette question-là, pour avoir ensuite recueilli beaucoup de témoignages ou d'opinions d'artistes venus visiter l'exposition, et vous avez tous les deux fait la même expérience, je crois que c'était assez frappant. Donc ça, c'était la première remarque. Historiographiquement, l'absence d'écho doit être interprétée dans une histoire plus générale. Le deuxième point, c'est que, et ça, je pense que Claire Garnier en reparlera plus en détail, c'est dû d'une exposition qui mettait en présence et en perspective, ceux qui l'ont vu en savent quelque chose, deux types d'objets, deux types d'histoires différents. Il y avait évidemment tout ce qui relève de l'histoire de l'art, au sens assez connu et traditionnel des choses, et faire des expositions d'art, j'allais dire, grosso modo, on sait le faire, et au Centre Pompidou-Metz particulièrement, puisque vous étiez fort aussi de l'expérience de chef-d'œuvre. Et puis, il y a les expositions d'histoire. Et ça aussi, a priori, on sait les faire, ou d'autres. Mais une exposition d'art et d'histoire dans laquelle les phénomènes, y compris militaires, entraient en ligne de compte dans une écriture globale, ça, c'était peut-être plus délicat, et on était peut-être moins sûr au début de savoir le faire. C'est-à-dire que l'exposition, là, elle avait une hypothèse de départ, et il revenait à l'équipe de vérifier que cette hypothèse était juste ou fausse. Et cette manière de mettre en rapport les œuvres et un contexte très élargi me semble aussi tout à fait significative de l'évolution des méthodes de l'histoire de l'art et de l'histoire en général, et sans doute d'autres sciences, depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Il me semble, en tout cas je veux croire, que faire l'histoire des artistes ou l'histoire des œuvres en ne parlant que des œuvres et en ne parlant que des artistes, ça a peut-être été possible dans de certaines périodes, mais en aucun cas ça ne me paraît possible aujourd'hui. Ça, c'est une conviction, c'est peut-être la seule que j'essaie de transmettre régulièrement à mes étudiants. Faire de l'histoire de l'art, c'est s'informer, connaître, parler de toute autre chose que de l'histoire de l'art. Les artistes lisent, les artistes vivent, les artistes bougent, les artistes réagissent sans tous ces paramètres, mais ce sont en réalité beaucoup plus que ces paramètres. On ne peut pas, me semble-t-il, comprendre la création, et on ne peut pas comprendre non plus ce que la création éclaire de l'époque au cours de laquelle elle est en train de se faire. Donc 1917, de mon point de vue, d'un point de vue moins d'historiographie que de méthodologie, c'était la mise en œuvre d'une certaine pensée de l'histoire, d'une certaine manière de faire de l'histoire, dont je ne dis pas qu'elle était entièrement neuve quand on a commencé à travailler, mais qui, enfin, tout de même, n'était pas si répandue que cela. Voilà tout ce que je peux dire en introduction. Encore une fois, il appartient à ceux qui étaient aux commandes de la machine de dire plus avant et plus précisément que moi comment nous avons travaillé. Et donc, je transmets la parole à Claire Garnier.